Jusqu'à 13h et en direct, les rendez-vous de Midi Emmanuel avec vos invités.
Et oui, il y a quelques jours, on en parlait à l'antenne, on n'a pas été les seuls à en parler. Un rapport final a été remis au gouvernement et au président Emmanuel Macron. Après 27 journées de réunion, 4 mois de réflexion et d'échanges et des votes de 184 citoyens faisant partie de la fameuse convention citoyenne sur la fin de vie. Un rapport aussi riche que nuancé, nous disait par exemple France Info. On reçoit aujourd'hui deux de ces citoyennes. L'une vient de Bretagne, Odile Cadoret, l'autre de Machecoul-Samel, Marie-Françoise. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et bienvenue. J'imagine que vous venez d'achever donc un peu plus de 4 mois ou presque hein, d'une intensité particulière, d'une richesse assez indescriptible. Comment est-ce que vous décririez déjà ces 4 mois vécus voilà, avec 182 autres citoyens?
Alors pour moi c'était une expérience formidable, une expérience humaine où on a pu rencontrer des gens différents de nous et de tous milieux. Donc c'était quelque chose de très très positif et ça nous a ramené à l'intime. Et donc quand on est jeune, on ne pense pas à la mort, mais quand on avance dans l'âge, c'est sûr qu'on est amené à penser à la fin de vie. Donc ça nous a mis au pied du mur et nous avons passé une grande période de réflexion, très très positif. C'est sûr que les premières fois, on était un peu morose parce que la mort, c'est pas n'importe quoi. L'euthanasie, le suicide assisté, c'est pas n'importe quoi. Donc ça nous a perturbé. Moi, ça m'a perturbé un petit peu, les premiers week-ends surtout. Et après, j'ai pris sur moi, j'ai intégré le sujet. Et heureusement qu'il y avait une bonne ambiance pour accepter tout ce qu'on a accepté.
Voilà, c'était Odile. Marie-Françoise, votre avis?
Moi, je pense que c'est un sujet très humain qui m'a touchée vraiment profondément au cœur de moi-même. Ça m'a remis en cause sur beaucoup de relations avec les personnes, dans la mesure où chacun apportait son témoignage sur la fin de vie. Tout le monde avait des témoignages différents. Ça nous a fait beaucoup penser à énormément de sujets autres même que la fin de vie.
On va voir, vous avez fait des rencontres incroyables, vous avez eu des témoignages et des conseils, on va dire, pas des conseils mais des avis très très variés. Alors ça commence par un appel téléphonique, voilà, on vous appelle, on vous annonce que vous avez été tiré au sort. On reçoit tous énormément d'appels, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont très vite raccroché, mais vous n'avez pas raccroché. Comment ça se passe? Comment êtes-vous tiré au sort?
Alors en ce qui me concerne, j'ai reçu un appel à 20h exactement, donc j'ai vu 01, je me suis dit tiens, à Paris, à part mon assureur, c'est tout ce que je connais sur Paris, et donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit, vous avez été tiré au sort, on m'a demandé mes coordonnées, vous êtes marié, nous sommes la société Le Terrain, nous avons été chargés de vous recruter. Et alors, j'aurais dit, écoutez, est-ce que ça demande réflexion? Est-ce que je peux vous donner une réponse demain? Parce que là, je peux pas vous dire oui tout de suite. Pas de problème, on vous rappellera demain. Donc, tout de suite, moi, je suis allée voir mon expert comptable en lui demandant de vérifier ce que c'était la société Le Terrain. Et la société Le Terrain, il m'a dit, dans une demi-heure, vous saurez si c'est sérieux. Une demi-heure après, c'est sérieux, c'est une société qui existe depuis 25 ans, qui recrute. Donc pour moi c'était des chasseurs de tête qui nous recrutaient, donc j'ai dit oui tout de suite. Donc,
oui tout de suite. Et vous Marie-Françoise?
Moi c'est un peu différent parce que j'avais vu une émission à la télévision qui m'avait beaucoup frappée sur la fin de vie et parlait justement de la convention qui allait se mettre en route. Donc quand j'ai été contactée, moi c'était le CESE qui organisait cette convention, j'ai dit oui parce que ça m'intéresse. J'ai d'abord cru un canular, ils m'ont donné tous les documents sur internet, donc j'ai vu que c'était sérieux et j'ai dit oui.
Très rapidement aussi.
Très
alors,
rapidement.
Voilà, vous êtes donc 184 citoyens et citoyennes à avoir été contactés, je crois beaucoup beaucoup plus, il y a eu énormément de personnes contactées. Oui. Vous me disiez combien? Plus de 300 000 appels? Vous croyez, hein?
Oui.
Voilà, donc sur cette proposition, on le rappelle, du président, il en parle, Emmanuel Macron, au mois de septembre. Comment est-ce qu'on vous présente votre rôle une fois que vous avez décidé d'accepter? Qu'est-ce qui vous a aussi peut-être décidé à accepter?
Alors, ce qui m'a décidé à accepter, c'était le sujet évoqué, c'était la fin de vie. Et moi, j'ai été confrontée il y a quelques années à la fin de vie de par le décès de ma mère, mon père et ma tante. Donc, en fait, ce que j'ai appris, enfin, ça m'a donné une grande explication à ce que je venais de vivre 10 ans ou 15 ans auparavant. Et je pense que ça m'a... Pour moi, c'est une mise au grand jour de ce qui existe déjà. Que ce soit les soins palliatifs, personnes de confiance, directives anticipées. Donc, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà été confrontée à ça. On m'a demandé de les faire, on m'a demandé... Donc, je remercie la Convention de m'avoir contactée. C'était une belle expérience pour moi.
Alors, je sais que la Convention, donc, il fallait des femmes, des hommes, différentes générations, différentes, peut-être, origines sociales, etc. Est-ce qu'on vous a posé des questions sur votre avis, sur le sujet, sur votre religion? Peut-être, est-ce que ça a été posé en amont, ces genres de questions?
Alors, la religion, pas du tout. On nous demandait notre parcours, notre âge, la région dans laquelle nous vivions, mais... Ils ont ciblé sur la diversité, puisqu'ils ont fait ça par informatique, donc le logiciel faisait déjà une sélection. D'autre part...
Je me demandais les questions qu'on vous a posées, en fait, pour...
Alors, au niveau religieux, c'était pas abordé.
Ouais.
On s'est retrouvés, donc, 180 un matin. Il y avait des tables de 10 personnes. Et quand on est arrivé, on nous a donné un badge avec un numéro de table. Et on s'est retrouvés par 10 personnes au sort, comme ça.
Et après, on nous a régulièrement mélangés, assérés à d'autres groupes.
On a changé de groupe toutes les conventions. À chaque week-end, on avait un groupe différent de gens. Donc ça fait un brassage, on a rencontré énormément
de monde.
Et chacun est venu avec son expérience. Donc on partageait d'abord des expériences.
Donc là, on s'engage sur plusieurs mois, au moins 4 mois. Les réunions, c'est le week-end pour les actifs, hein, puisque Odile, vous êtes toujours active.
Oui.
Marie-Françoise est retraitée. Voilà, mais donc il y avait plusieurs générations. Vous vous retrouvez, vous l'avez dit, on vous mélange. Et puis on vous fait rencontrer énormément de monde. On n'imagine même pas toutes les personnes que vous avez pu rencontrer. Moi, j'ai pensé à des médecins, mais déjà, on vous fait rencontrer des philosophes, des religieux. Racontez-nous un petit peu, voilà, ces différentes
journées. Alors, on a rencontré d'abord Madame la Première Ministre, avec Olivier Véran. On a ensuite rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, qui nous a bien dit qu'on s'engageait à rien, puisque c'était les députés qui votaient la loi. Donc déjà, ça nous a rassurés quelque part, parce qu'on s'est dit quand même, on signe une charte, on a des responsabilités, il ne faut pas qu'après, ça nous retombe dessus, comprenez, c'était quand même un engagement fort. Et ensuite, on nous a fait rencontrer tous les ecclésiastiques, toutes les religions ont été évoquées. C'est vrai que tous, à l'unanimité, étaient pour vieillir sans souffrir, mourir sans souffrir. Donc, il fallait que la souffrance soit le plus atténuée, le plus possible. Donc ça, c'est ce que j'en ai tiré des ecclésiastiques. Après, on a eu des philosophes qui sont venus. On a eu le Grand Orient qui a été représenté, la Grande Loge. Donc, on a quand même eu un avis de différentes personnes, des gens païens, laïcs, hein, où la religion n'était pas existante. Donc, après, ça nous a permis de faire le point, de cibler, de se dire, est-ce que les ecclésiastiques ont raison? Est-ce que les philosophes ont raison? Donc, il y a eu tout un mélange d'idées et ça a fait une mixture et ça a fait boule de neige parce qu'ils savent très bien que même si on était 184, on en a parlé autour de nous. Donc, on en parle à nos familles. C'est la petite graine qu'on sème et la graine, elle va devenir réalité.
Vous avez le droit d'en parler autour de vous. On vous a pas dit, on ne dit rien.
Au contraire,
nourrissez le débat, échanger. Ça a été un vrai débat pendant 4 mois. Et vous avez rencontré beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec...
On peut dire que les ecclésiastiques étaient contre, mais par contre, les libres penseurs, les gens de la médecine, eux, n'étaient pas trop d'accord parce qu'ils avaient la loi et les soins palliatifs. Les soins palliatifs, dans 20 départements en France, ça n'existe pas. Donc on a beaucoup travaillé sur l'application déjà de la loi en demandant des finances, en demandant la formation de personnel parce qu'il y a très peu de formation et c'est méconnu.
Oui, quand vous me dites qu'il y a plein de départements qui n'ont pas de soins palliatifs, je découvre en vous écoutant.
Hein. Oui.
J'imagine que vous l'avez peut-être découvert aussi.
Alors, ils veulent absolument développer les centres de soins palliatifs. Oui. Donc, c'est une bonne chose. Mais moi, je suis allée visiter des centres de soins palliatifs. J'y connaissais de par le décès de mon père qui a été en soins palliatifs. Et donc... tous, enfin, ils sont pour les soins palliatifs, sédation profonde et définitive, mais pour l'euthanasie et le suicide assisté, ils sont un peu réticents parce que ils ont l'impression qu'après, ils ont moins de travail, moins de gens à venir dans leurs établissements de soins palliatifs. Donc, c'est à double tranchant. Donc,
Voilà, justement, vous avez été appelé à vous prononcer sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, sur l'aide effectivement à cette fin de vie. Comment aussi votre vision des choses a changé ou pas d'ailleurs? Comment aujourd'hui se défend ce rapport final qui a été récemment conclu? Et puis la suite aussi, voilà, de tout le travail que vous avez fourni pendant 4 mois. Eh bien, je vous poserai plein de questions après une petite pause musicale, mesdames.
Juste après l'héritage Goldman sur Neuve.
Et solitaire aussi, il te faudra gagner pouce à pouce les oublis de la vie. Oh, tu ne seras jamais la reine du bal vers qui se tournent les yeux éblouis. Pour que tu sois belle, il faudra que tu le deviennes, puisque tu n'es pas née jolie. Il faudra que tu apprennes à encaisser tout ce que le sort ne t'a pas donné. Tu le prendras toi-même. Rien ne sera jamais facile. Il y aura des moments maudits. Oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne, et toi seul en sauras le prix. T'es pas très catholique et t'as une drôle de peau. Chez toi les fils soi-disant magiques ont loupé ton berceau. Oh, tu seras sûrement jamais notaire, pas de privilèges hérités. Et si t'as pas les papiers pour être fonctionnaire, tout seul apprends à fonctionner.
Aux pépinières de la rivière.
Un beau week-end fleuri vous attend les 22 et 23 avril.
Dans un cadre verdoyant, des professionnels passionnés du végétal vous aideront à créer votre espace extérieur.
Animation enfant et offre spéciale sur toute la pépinière.
Portes ouvertes aux pépinières de la rivière, route de Saint-Gilles à Soulan, samedi 22 et dimanche 23 avril.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, bienvenue à la Belle Époque. Plongez dans la vie parisienne du peintre Charles Milsanteau.
Le musée Charles Milsanteau vous fait voyager. Jusqu'au 5 novembre, retrouvez une nouvelle exposition temporaire avec des toiles inédites parmi une centaine d'œuvres.
Et samedi 13 mai, ne manquez pas la grande soirée Quelle Belle Époque. Concerts, projections plein air, ateliers photo. Qu'on se le dise, il y a du nouveau au musée Charles Milsanteau à Soulan.
C'est géré par la communauté de communes Océan Marais de Mont.
La suite sur Novi en direct jusqu'à 13h. Les rendez-vous de midi aujourd'hui, Emmanuel, vous recevez Odile et Marie-Françoise et elles ont participé à la conférence citoyenne sur la fin de vie.
La convention citoyenne sur la fin de vie qui aboutit à des propositions début avril, remise donc au président. Alors, ce n'est pas sur une question que vous êtes prononcé, mais sur un très grand nombre de questions de sujets qui évidemment posaient questions, débats. D'abord, avant ces premières réunions, est-ce que vous aviez une opinion particulière globalement sur l'accompagnement de la fin de vie, sur aussi l'euthanasie? Est-ce que vous aviez cette opinion ou pas spécialement?
Alors moi, en fait, pour moi, c'était une grande aventure humaine, mais j'avais quand même des notions sur les soins palliatifs, personnes de confiance. Je connaissais des choses de par mon expérience personnelle avec le vécu des personnes de ma famille qui sont décédées. Donc j'étais confrontée quand même aux soins palliatifs, donc j'étais confrontée à la fin de vie. Donc, personne de confiance. Donc, ça ne m'a pas surpris. Mais après, tout ce qui était euthanasie, suicide assisté, c'était un peu une découverte. Il a fallu que des médecins belges et suisses viennent et nous expliquer comment ça se déroulait dans leur pays. Et donc, je pense que si c'est validé en France, ça évitera bien des procédures judiciaires. Parce que l'affaire Vincent Humbert a fait polémique quand même. Et il a fallu des années et des années pour que la famille gagne. Donc je pense que ça a dû faire réfléchir beaucoup de citoyens et citoyennes.
Marie-Françoise, vous aviez une opinion à l'origine. Est-ce que vous avez changé d'opinion? Est-ce que vous avez douté pendant ces 4 mois de travail?
Alors moi j'avais une opinion que j'ai conservée, mais j'ai modulé. Je suis moins jusqu'au boutiste. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuances à apporter et que le suicide assisté et l'euthanasie, ça ne vient qu'en dernier recours, quand on ne peut pas soulager et que la maladie prend le temps à évoluer longtemps.
Alors justement, vos travaux ont abouti, on l'a vu à début avril, à plusieurs votes, à plusieurs propositions aussi. Déjà, alors une majorité d'entre vous a appelé à des changements profonds, quasi unanimes, pour un meilleur accompagnement. Et notamment, vous l'évoquez beaucoup, ce renforcement de l'offre de soins, notamment soins palliatifs, qui n'est pas du tout généralisé en France. Donc, c'est un des premiers axes. C'est que ce soit renforcé dans tout le pays.
Alors, on a demandé surtout des aides financières. Il installe 22 départements qui n'ont pas de soins, d'unités de soins palliatifs en France. Donc, on a demandé que ce soit développé et installé. Et on a demandé aussi une meilleure formation des aidants et du corps médical, parce qu'actuellement, c'est un peu léger.
Alors vous avez donc 65 propositions fortes qui ont été déclinées. Et puis évidemment, on retient beaucoup tous, on se pose la question qui a été posée, celle de l'aide active à mourir, du suicide assisté, de l'euthanasie. On distingue les trois déjà, ce qu'on ne sait pas forcément d'ailleurs. Comment ça vous a été présenté, ces trois possibilités en fait de fin de vie?
Alors les soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on fait une sédation, on ne nourrit plus les gens et on ne les déshydrate plus, et petit à petit ils meurent, on les endort, on les met dans un coma et on leur donne des anxiolytiques et des calmants puissants pour pas qu'ils souffrent. Et au bout de quelques heures ou un ou deux jours, ils meurent. Mais dans certaines maladies, le cœur est très résistant et ça peut durer plus longtemps. Et là, on ne sait pas, on n'arrive plus à calmer la douleur. C'est là où on se pose la question de l'euthanasie ou du suicide assisté.
La grande différence,
c'est... Alors, l'euthanasie, c'est-à-dire que le malade est incapable de prendre lui-même le médicament. Donc, on lui fait une injection. C'est une tierce personne qui intervient. Tandis que dans le suicide assisté, c'est la personne elle-même qui prend le médicament ou qui se l'injecte.
Alors sur la première proposition, l'aide active à mourir, vous êtes quand même une majorité, 76% d'entre vous sont prononcés en faveur de l'ouverture en France de l'aide active à mourir. C'est important ça.
Alors l'aide active à mourir, c'est la conséquence logique des soins palliatifs, parce que quand j'ai visité les centres de soins palliatifs, on nous a bien dit qu'ils injectaient de la morphine plus des anxiolytiques et qu'à un moment donné, le malade ne peut plus respirer, il a des problèmes respiratoires, donc ils sont obligés de sédater d'office. Donc il y a quand même une explication à la sédation définitive. Quand la personne ne peut plus respirer, vous êtes obligé d'en venir à ça. Donc il y a quand même une explication, on nous a quand même expliqué, ils ont mis le temps, ils ont mis la forme pour nous expliquer et nous faire admettre la réalité.
En revanche, sur l'euthanasie et le suicide assisté, il n'y a pas eu de consensus des citoyens?
Non, parce qu'il y avait 20% des gens qui sont contre cet acte de mort. et qui trouvent que leur religion ou leur morale leur interdit.
Mais 20%, c'est pas non plus énorme. Ça veut dire qu'il y a près de 80% qui étaient pour.
Qui étaient pour. C'est pour ça qu'on est sorti à la fin de la convention dans un dissensus et non pas un consensus.
Ouais, grande majorité tout de même. Alors vous avez présenté ce rapport donc au gouvernement. Emmanuel Macron, il vous a reçu de nouveau à l'Élysée. Ce que vous avez proposé va encore alimenter un débat qui va être maintenant législatif.
Oui.
Vous l'avez dit, votre convention, elle est consultative. C'est pas vous qui allez écrire un texte. Mais la suite pour vous, c'est quoi exactement?
Alors pour moi, c'est un phénomène sociétal. Hein. Ce qui se passe, c'est un phénomène sociétal. Et les jeunes à venir, pour moi, de toute façon, ils seront favorables à l'euthanasie, au suicide assisté. J'en suis convaincue.
Mais la suite, c'est que maintenant, c'est le gouvernement qui va prendre en main ce texte. Enfin, en tout cas...
Et c'est les députés qui voteront, donc à la fin de cet été.
Mais ça servira de base de réflexion.
Et ça, pour vous, d'avoir participé à ce débat national, d'avoir fait avancer ce débat, j'imagine que c'était important.
C'est un honneur.
C'est une certaine fierté.
C'est une fierté, d'autant plus qu'on a des bons souvenirs à l'Élysée. Et donc, prise de photo à côté du président de la République, c'est unique, ça ne se reproduira jamais dans notre vie. Hein.
Et puis, 4 mois de travail, de réflexion.
Même 5 mois, presque 5 mois. Hein. Ouais.
Oui, ça a créé des amitiés très fortes aussi.
Oui, vous allez.
Oui, parce qu'on touche à un sujet très intime.
Mais vous avez participé un petit peu à l'histoire, hein, quelque part.
Oui, quelque part.
Et donc le bilan, il est extrêmement positif pour vous de ces 4 mois. Et puis vous sentez que ça
va. Il est très très positif.
Quand on fait une convention comme ça, entre le départ et l'arrivée, on a changé.
Ouais.
Donc vous allez suivre évidemment maintenant le débat législatif. Vous allez peut-être aller à l'Assemblée.
Oui. C'est ça. On sera reconvoqué à la fin de cet été.
De toute façon, Emmanuel Macron s'est quand même engagé avec un plan décennal pour développer les soins palliatifs partout en France. Donc il y aura des actes concrets, même si la loi n'évolue pas, il y aura quand même une application.
Et on peut aussi faire partie, insérer au sein d'un centre de soins palliatifs en tant que bénévole. Mmh. Ils prennent des bénévoles.
Donc évidemment, vous allez suivre ça de près. Et puis nous aussi, donc vous l'avez dit, hein, ce sera pour la fin de cet été, pour la loi qui, évidemment, va aussi être évoquée hein, dans les médias. On va suivre tout ça de près. Mais écoutez, merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, ben, oui, on est assez admiratifs hein, de tout le travail que vous avez fourni là, ces derniers mois. Et puis, on espère qu'il y aura des beaux aboutissements législatifs hein, sur le sujet.
Très bien. Voilà, ben, on a fait au mieux. Et puis, moi, c'était un honneur pour moi de venir en Vendée, surtout revoir Arnaud, votre directeur de radio, avec qui j'ai fait de la radio à Rennes.
Ah, d'accord.
Dans le passé.
Okay.
Voilà,
c'est aussi pour ça, votre présence. Et vous venez de Bretagne, merci beaucoup, Odile. Merci, Marie-France. Donc, on se retrouve en Marie-Françoise, hein, je le dis de bêtises, en podcast dans quelques minutes. Et puis, on se retrouve demain avec Gilles Perraudeau, qui sera présent pour le Salon du Livre de Saint-Gervais. Ça y est, il arrive, c'est ce week-end. Samedi et dimanche, salle des primes vertes.
Très bien, c'est noté. Demain, ce sera à 12h35 sur Neuve. L'émission podcast. Hein. Voilà, vous l'avez indiqué, c'est dans quelques petites secondes. À suivre après les infos, on a The Cranberries et Imagine Dragons, et puis le duo très beau avec Kenji Girac et Florent Pagny. Vous écoutez Neuve, il est 13h.